VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30, temps universel du mardi 23 octobre 2018. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Le Cameroun lance un appel d'offres pour la construction d'une résidence de fonction pour le président du Conseil constitutionnel qui a proclamé hier la victoire de Paul Biya. Manifestation en Centrafrique de partisans du président de l'Assemblée nationale menacé de destitution. Manifestation également en Guinée, l'opposant Sélou d'Alain Diallo affirme avoir échappé à une tentative d'assassinat. Le chef de l'opposition au Zimbabwe appelle à la formation d'un gouvernement d'union nationale et puis les États-Unis vont exiger des réponses de l'Arabie Saoudite sur la mort du journaliste Jamal Khashoggi, selon le vice-président Mike Pence. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Bienvenue à tous. Les autorités camerounaises ont lancé un appel d'offres pour la construction d'une résidence de fonction pour le président du Conseil constitutionnel. C'est au lendemain de la proclamation par ce même Conseil de la réélection de Paul Biya à un 7e mandat consécutif. Le point avec Eric Manerakiza.
Dans la perspective du développement du patrimoine national, le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières lance par un appel d'offres national pour la construction de la résidence du président du Conseil constitutionnel à Bastos, quartier UP de Yaoundé. Cet appel d'offres daté du 12 octobre est publié ce mardi dans le journal d'État Cameroon Tribune. Plus de 272 millions de francs CFA seront alloués pour la construction de cette résidence qui sera occupée par Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel. Il a proclamé hier les résultats de la présidentielle du 7 octobre, donnant Paul Biya largement vainqueur avec 71,28%. La France a, lui, adressé ses vœux de réussite pour son nouveau mandat. Le département d'État américain a indiqué hier avoir relevé un certain nombre d'irrégularités avant, pendant et après le vote, créant l'impression que l'élection n'était pas crédible ou vraiment libre et équitable.
La tension au sein du Parlement centrafricain, des partisans d'Abdou Karim Mekasua, le président de l'institution, ont marché ce matin à Bangui pour dénoncer la procédure de destitution en cours. Ils ont remis un mémorandum au chef de la mission de l'ONU dans le pays. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sepila.
Les manifestants, plusieurs centaines selon les organisateurs, une centaine selon des observateurs neutres, ont marché du PK5, quartier d'Abdou Karim Mekasua, jusqu'au quartier général de la MINUSCA. Ils dénoncent une machination au sein de l'Assemblée nationale pour évincer du perchoir leur leader. Patrick Kosangé, coordonnateur du mouvement politique d'Abdou Karim Mekasua dans le 2e arrondissement.
Il y a un système de monnayage qui se fait. On est en train de monnayer, on est en train de manipuler, on est en train de tirer de par-ci par-là pour essayer de prendre ce qui n'est pas reconnu, ce qui n'est pas clair pour mettre à la place de ce qui ressort du règlement intérieur de la.
95 députés sur les 140 à l'Assemblée nationale ont déposé la semaine dernière sur la table de la conférence des présidents des commissions une motion pour exiger la destitution d'Abdou Karim Mekasua du perchoir. Ces parlementaires reprochent au président du Parlement le manquement à son devoir dans la gestion de l'institution. C'est vendredi 26 octobre que le sort de l'actuel président de l'Assemblée nationale sera connu à l'issue d'une plénière des députés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et puis le gouvernement centrafricain procédera avant la fin de l'année au désarmement de plusieurs groupes dans l'ouest de la Centrafrique. C'est ce qu'a indiqué ce mardi au Conseil de sécurité l'émissaire de l'ONU pour ce pays, Parfait Onanga Anyanga. En matière de DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, une demi-douzaine de groupes armés se sont engagés à participer au programme national selon le diplomate gabonais. En Guinée, l'ancien Premier ministre Sélou d'Alain Diallo a dénoncé ce mardi ce qu'il appelle une tentative d'assassinat. Selon le principal opposant au président Alpha Condé, son véhicule a été traversé par une balle alors qu'il se rendait à une manifestation interdite par les autorités. Les précisions avec Jacques Aristide.
D'après le chef du parti UFDG, les gendarmes ont visé et ont tiré, en ajoutant que son chauffeur est blessé au visage par des éclats de verre. La balle, poursuit Sélude Alain Diallo, est passée juste entre son chauffeur et lui. Le porte-parole de la police n'a pas voulu réagir, tout comme le ministre de l'administration territoriale, Bouraïma Kondé. Pour Sélude Alain Diallo, il s'agit de la preuve la plus éloquente qu'on a voulu l'assassiner. Cette accusation intervient alors que l'opposition a maintenu son appel à manifester ce mardi, malgré l'interdiction décrétée hier par les autorités locales de Conakry pour protester contre la violation par le pouvoir, selon elle, d'un accord conclu en août sur l'installation des élus locaux après le scrutin contesté du 4 février. Des échauffourées ont éclaté dans la capitale guinéenne entre quelques centaines de jeunes et les forces de l'ordre. Tout regroupement tendant à provoquer une marche ou empêcher les gens de circuler sera réprimé, avait prévenu le chef des unités d'intervention de la police, le général Ansouman Camara.
Le vice-président du Mouvement national de libération de l'Azawad, membre de la coalition de l'ex-rébellion malienne, est décédé hier des suites d'une courte maladie à Bamako. Âgé de 46 ans, Mouhamadou Djeri Maïga était membre du comité de suivi de l'accord de paix conclu en 2015 entre Bamako et l'ex-rébellion à dominante Touareg. Il était enseignant de profession et originaire de Gao, la principale ville du nord du pays. Le principal dirigeant de l'opposition au Zimbabwe, Nelson Chamisa, préconise la formation d'un gouvernement de transition pour résoudre la crise politique et économique qui s'aggrave dans le pays. Nelson Chamisa a indiqué avoir rencontré des responsables religieux qui réclament l'ouverture d'un dialogue politique entre l'opposition et le président Emmerson Mnangagwa. Le Zimbabwe connaît sa plus grave crise économique depuis 10 ans, qui s'est traduite ces dernières semaines par des pénuries de carburant, de nourriture et de médicaments en raison d'un manque de devises. D'ailleurs, dans notre partie magazine, nous reviendrons sur la grave pénurie de médicaments au Zimbabwe.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, s'est rendu ce mardi à un forum international sur l'investissement à Riyad. Une rencontre assombrie par le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi qui a provoqué le boycott de plusieurs dirigeants étrangers et de grands chefs d'entreprise. Salwa Diafali.
Mohamed Ben Salman était assis au premier rang, aux côtés du roi Abdallah II de Jordanie. Il a quitté la salle au bout de 15 minutes. Une atmosphère très tendue et pour cause, la communauté internationale continue de demander des explications. À sa tête, le premier ministre turc, Tayyip Erdogan.
Certaines informations recueillies par nos éléments de sécurité et de renseignement, qui sont toujours en cours d'évaluation, indiquent déjà que l'incident était planifié. Elles feront partie du dossier d'enquête du procureur dès que l'évaluation sera terminée. Mettrez ça sur le dos de quelques membres des services de sécurité et de renseignement ne nous satisfera pas plus que la communauté internationale.
Le président turc a également déclaré qu'il souhaitait que l'Arabie saoudite permette l'arrestation des 18 suspects et leur comparution devant les tribunaux turcs. De son côté, le président Donald Trump a envoyé la directrice de la CIA en Turquie dans le but d'obtenir plus d'informations sur la mort du journaliste. Son vice-président Mike Pence a réaffirmé que les Américains veulent des réponses et vont exiger que ces réponses interviennent rapidement.
Le conseiller à la Maison-Blanche chargé de la sécurité nationale, John Bolton, s'est félicité ce mardi des discussions très productives à Moscou avec des hauts responsables russes, dont le président Vladimir Poutine. Selon M. Bolton, ces entretiens ont notamment porté sur une future rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Paris, en marge des commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale le 11 novembre, sur la Syrie, sur les accusations d'ingérence russe dans les élections aux États-Unis, et notamment sur le contrôle des armes. Le FBI a ouvert une enquête sur la découverte d'un engin explosif dans la boîte aux lettres de la résidence du milliardaire et philanthrope américain George Soros à New York. M. Soros, 88 ans, ne se trouvait pas chez lui au moment des faits. George Soros, originaire de Hongrie, est devenu milliardaire grâce aux marchés financiers. Il est devenu ces dernières années le bouc émissaire de nationalistes en Europe et aux États-Unis, qui l'accusent notamment de soutenir l'immigration illégale par son action humanitaire. En Irak, 6 personnes ont été tuées et une vingtaine blessées dans un attentat à la voiture piégée contre un marché d'une localité au sud de Mossoul, l'ancienne capitale du groupe État islamique. Des images amateurs mises en ligne montraient le site de l'attaque dans le nord de l'Irak. Et puis l'ancien chef du groupe djihadiste Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, a été déchu ce mardi de sa nationalité belge par la justice. Il est d'origine marocaine. Il a été condamné en 2015 à 12 ans de prison. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Eric Manelakiza.
Au Kenya, les exonérations fiscales ont fait perdre près de 2,7 milliards de dollars à l'État sur les 3 dernières années. Selon le responsable des impôts, entre 85 et 90 milliards de shillings échappent aux caisses de l'État chaque année. L'introduction d'une exemption de TVA pour des projets financés par des bailleurs de fonds internationaux a notamment contribué à cette situation. En Angola, la dette publique se chiffre à 70 milliards de dollars. Luanda a utilisé cet argent pour financer des projets liés à l'énergie et à l'eau, à la construction et au transport. Malgré les inquiétudes sur la croissance de la dette angolaise, les autorités du pays ont montré une confiance absolue en leurs finances et ont rassuré les investisseurs sur la viabilité de la dette. Le gouvernement espère réduire le déficit budgétaire et le poids de la dette grâce à son programme de stabilisation macroéconomique. D'ici 2060, la consommation mondiale des matières premières devrait doubler et atteindre 167 milliards de tonnes. L'OCDE enregistre actuellement 90 milliards. L'étude intitulée « Perspective mondiale des ressources matérielles à l'horizon 2060 » souligne que cette consommation à l'échelle de la planète représenterait l'équivalent de 45 kg par jour. Les émissions de gaz à effet de serre liées à l'extraction et à l'utilisation des matières premières devraient passer de 28 milliards de tonnes à 50 milliards.
C'est l'heure des sports avec vous, Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
L'Espérance de Tunis est le premier qualifié pour la finale de la Ligue africaine des champions.
Les Tunisiens ont renversé la vapeur à domicile après leur défaite 1-0 en Angola au match aller. Face à Primeiro de Agosto, l'Espérance de Tunis a remporté la manche retour jouée ce soir même à Tunis, 4-2. Les Tunisiens connaîtront leurs adversaires de la finale tout à l'heure après la deuxième demi-finale entre les Algériens de l'entente Sétif et les Égyptiens d'Al-Ahly, vainqueurs 2-0 au match aller.
Au Cameroun, la première liste de Rigobert Song est tombée.
Et oui, récemment nommé à la tête de la sélection des moins de 23 ans du Cameroun, Rigobert Song a convoqué 35 joueurs pour la double confrontation face au Tchad en éliminatoire de la CAN des moins de 23 ans, donc Égypte 2019. Coton Sport et Iding sont les clubs les plus représentés dans cette liste avec 6 joueurs chacun. L'ancien capitaine des Lions Indomptables a pour mission de qualifier le Cameroun pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les deux matchs face au Sao sont prévus entre le 12 et le 20 novembre pour le compte du premier tour des qualifications.
Prix de l'athlète de l'année, 4 Africains nominés pour ce prix.
Oui, Abdourahman, la Fédération internationale d'athlétisme a dévoilé une liste de 10 stars en lice pour la récompense. Le Kenyan Eliud Kipchoge, vainqueur du marathon de Berlin et tombeur du chrono sur la distance, est un grand favori pour le trophée. À ses côtés, ses compatriotes Timothy Cheruiyot, meilleur performeur de l'année sur 1500 mètres, et Emmanuel Courir, plus rapide sur le 800 mètres cette année. Enfin, le Sud-Africain Louvo Manyonga, vainqueur de la Ligue de Diamants et des Jeux du Commonwealth, en saut en longueur, est aussi nominé. Le lauréat sera connu le 4 décembre.
Et on termine par la NBA. LeBron James et les Lakers, encore défaits.
LeBron James a enchaîné une troisième défaite de suite avec les Los Angeles Lakers devant les San Antonio Spurs, 143-142 après prolongation. Le King, 32,8 rebonds et 14 passes décisives, a raté deux lancers francs cruciaux, puis le tir de la victoire lors d'une fin de prolongation folle qui a vu les Texans réussir un 7-0 pour s'imposer crimes extrémistes. Ce scénario improbable a presque fait oublier que LeBron James avait réussi auparavant, à 3 secondes du temps réglementaire, un shoot à 3 points pour arracher la prolongation 128-128.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie, et on passe au dossier du jour. Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur les prisons à Madagascar. Des milliers de personnes sont maintenues en détention préventive injustifiée, excessive et prolongée dans des conditions qui mettent leur vie en danger, affirme l'organisation. Morgane Guerrier a joint Tamara Léger, conseillère du programme Madagascar pour Amnesty International.
Les établissements pénitentiaires du pays comptent plus de personnes qui n'ont pas été condamnées encore, toujours en attente de jugement, que de personnes qui ont été condamnées. Plus de 50% des hommes qui sont derrière les barreaux, c'est 70% des femmes emprisonnées qui sont en attente de jugement, et chez les enfants, c'est carrément 80%.
Qui sont ces personnes? Pourquoi se retrouvent-elles en prison?
Une grande partie des personnes prévenues sont en prison pour des raisons qui ne justifient absolument pas une détention, et surtout pas dans des conditions telles qu'elles sont. Par exemple, chez les enfants et chez les femmes, il y avait beaucoup de prévenus qui étaient là pour des vols simples, un vol de poulet, un vol de vanille, pour des histoires d'escroquerie. Que la constitution même de Madagascar dit que la détention préventive doit vraiment être une exception.
Détention préventive qui peuvent durer très très longtemps apparemment.
La loi permet aux détentions préventives de durer plus de 5 ans chez les adultes qui sont accusés des crimes les plus graves, et pour les enfants 33 mois. 600 enfants, c'est près de 700 qui sont derrière les barreaux dans des conditions déplorables. Ils dorment à même le sol, dans des conditions surpeuplées. Ils n'ont pas accès à leur famille et pas accès à des avocats.
Sur ces conditions de détention qui sont particulièrement difficiles, il y a eu des personnes qui sont mortes en prison.
L'année dernière, il y a eu 129 personnes qui sont décédées, au moins. Et parmi eux, 52 étaient en attente de jugement. Donc, c'est-à-dire que ces 52 personnes-là n'auront finalement jamais accès à la justice.
Alors comment expliquer cette situation?
Nos recherches ont montré que la plupart des magistrats semblent adopter une approche assez punitive, alors que dans le droit malgache, les alternatives à la détention existent. Et d'ailleurs, sur le papier, elles doivent vraiment être la priorité. Et en réalité, on voit bien que très souvent, les hommes, les femmes, les enfants sont mis en détention préventive en attendant leur procès.
Est-ce qu'il y a aussi un problème de moyens?
Le gouvernement a échoué à faire du système de justice pénale une priorité. Donc ce manque de moyens s'illustre par le manque de personnel. Hier, on était dans la prison de la capitale, dans une cour où il y avait près de 400 détenus et il n'y avait que deux gardes.
C'était Tamara Légère, conseillère du programme Madagascar pour Amnesty International.
Bonjour, c'est Nathalie Barge. On se retrouve à 19h05, temps universel, dans le monde au féminin, juste après les nouvelles. L'invité de LMF est Thérèse Capange, Miss Maryland International, mannequin d'origine togolaise et angolaise, coordonnatrice de Miss Ebony World et présidente de la Fondation Thérèse Capange, visant à aider les filles à développer la confiance en soi. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ce mardi. À tout à l'heure.
Donner une seconde vie aux déchets plastiques, c'est la mission que s'est assignée Makumba Diagne, un jeune entrepreneur dont la société basée à Thiès au Sénégal collecte et recycle tout ce qui est déchets plastiques. John Lindon, notre envoyé spécial à Dakar, s'est rendu sur place et voici son reportage.
C'est ici, à environ 70 km du centre-ville de Dakar, que sont traités la plupart des déchets plastiques collectés dans la ville de Thiès. À la tête de l'entreprise en charge de cette initiative, un jeune, Makumba Diagne. Avec ses employés, dont une bonne partie sont des femmes, il s'est engagé à apporter une solution aux problèmes d'emploi et d'insalubrité dans la ville de Dakar, notamment à travers la collecte des déchets plastiques. Makumba Diagne, directeur général de Proplast.
Dans le domaine de la collecte, nous parvenons à créer beaucoup d'emplois en faisant une collecte formelle, en mettant en place des kiosques à travers un réseau de collecte où les personnes peuvent y travailler et gagner leur vie décemment.
Le Sénégal a récemment voté des lois contre les déchets plastiques en vue de protéger l'environnement. Ici à Proplast, on les collecte, mais aussi on les recycle. Makumba Diagne.
Une fois que cette matière-là est collectée à travers ces réseaux, est acheminée au niveau de cette usine afin d'être valorisée. Et quand c'est valorisé, on a une matière première secondaire qui peut être par la suite réutilisée par toutes les industries du Sénégal, dans la sous-région et partout dans le monde.
La jeune entreprise de collecte numéro 1 du recyclage au Sénégal reste aussi très présente auprès des populations du quartier Silmang où elle est installée. Pape Sambaba, responsable des ressources humaines.
On travaille aussi avec les associations de femmes, les groupements de femmes, les associations de jeunes aussi, pour essayer de les aider et aussi essayer aussi de montrer l'existence de Proplast dans Silma et essayer aussi de les accompagner dans les activités culturelles, sportives et sociales, tout ça.
Les déchets plastiques collectés sont rachetés aux populations qui reçoivent entre 50 et 100 francs CFA par kilo. Une rémunération qui a permis à beaucoup de personnes ici d'en faire leur gagne-pain.
Redonner une seconde vie aux déchets plastiques, c'est décidément l'objectif que s'est assigné la société Proplast. Un objectif qui lui permet non seulement de sauver l'environnement, mais aussi de faire vivre de nombreuses familles ici. John Linden, à Thiès, pour VO Afrique.
FM 102, c'est VO Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Zimbabwe, la crise économique a entraîné une grave pénurie de médicaments. Selon les autorités, cela pousse de nombreuses personnes à se tourner vers le marché noir, alors que de tels médicaments, faux pour la plupart, peuvent faire plus mal que du bien. De Harare, le correspondant de VOA Columbus Mavunga nous propose ce reportage relaté par Jacques Aristide.
Le spectre des pénuries au Zimbabwe va maintenant au-delà du carburant et d'autres produits de base. La société pharmaceutique du pays a déclaré ne pas disposer de suffisamment de devises étrangères pour importer de médicaments contre le cancer, le diabète, l'hypertension. Idem pour certains antibiotiques. Lena Lukwani est âgée de 77 ans. Elle se dit chanceuse d'avoir des enfants à l'étranger qui ont pu lui faire parvenir des médicaments contre le diabète et l'hypertension dont elle souffre.
Ces jours-ci, c'est difficile. Sur les 5 médicaments dont j'ai besoin, j'en ai seulement 2. Et c'est comme ça depuis 2 mois. Je limite donc mon régime alimentaire, surtout celui de l'amidon.
Elle confie que ses amis malades se retrouvent parfois à court de médicaments. Ils sont alors contraints de les acheter dans la rue, là où l'on peut généralement se procurer de produits devenus rares sur le marché. Le gouvernement est toutefois catégorique. On ne peut pas faire confiance à ces médicaments. Shinga Yakwatidzo est de l'autorité de contrôle des médicaments du Zimbabwe.
Ces médicaments n'ont pas été testés pour s'assurer qu'ils sont de bonne qualité, sûrs et efficaces. Les gens peuvent donc acheter des médicaments en pensant qu'ils les aideront, mais ils risquent, au bout du compte, d'aggraver leur état de santé.
Mais tant que ces médicaments ne sont pas disponibles dans les pharmacies, le marché de rue continuera à prospérer, permettant potentiellement soit de sauver des vies de malades désespérés ou mettre leur vie en danger. Les pénuries et les hausses de prix actuelles sont les pires depuis que la crise économique et financière de 2008 a entraîné le Zimbabwe dans une spirale d'hyperinflation. Les prix de nombreuses denrées de base ont plus que doublé en moins d'un mois. Pour Nelson Chamisa, leader de l'opposition, la situation dans les hôpitaux est tellement choquante. Selon lui, les hôpitaux zimbabwéens sont malades et ne peuvent pas prendre soin de personnes malades. Depuis septembre, environ 50 personnes sont mortes du choléra.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Après l'annonce du retrait des États-Unis d'un traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, John Bolton, conseiller de la Maison-Blanche à la sécurité nationale, s'est rendu hier à Moscou pour expliquer la position de Washington sur le traité. Yacouba Ouedraogo a joint Corentin Brustlin, directeur des études de sécurité à l'Institut français des relations internationales.
L'accord a consisté à interdire à la fois le test, la production et le déploiement de missiles sol-sol, c'est-à-dire tirés depuis le sol sur des cibles terrestres, d'une portée allant de 500 km à 5500 km. Il faisait suite à ce qu'on a appelé la crise des euromissiles, qui a été provoquée par le déploiement d'abord par l'Union soviétique, puis par l'OTAN, de ce type de missiles, qui était à la fois moderne, de plus en plus précis et qui permettait d'effectuer des attaques sur le continent européen.
Pourquoi les États-Unis veulent se retirer de cet accord?
Le retrait américain est motivé à la fois par le constat selon lequel la Russie ne remplirait pas les obligations contractées dans le cadre du traité, en ayant testé puis déployé un missile de croisière conventionnel, mais potentiellement nucléaire, mais surtout d'une portée interdite par le traité. Et à côté de ça, vous avez une pression grandissante du côté asiatique, qui est que les États-Unis, dans le cadre de leurs engagements vis-à-vis de leurs alliés, le Japon, la Corée du Sud, se préparent au risque d'une confrontation avec la Chine. Et la Chine a massivement, depuis les années 80, développé des systèmes qui seraient interdits dans le cadre du traité FNI, mais traité qui était un bilatéral. Donc elle ne l'a pas signé. Les États-Unis veulent être en mesure de répondre à cette menace. Et pour ce faire, ça fait déjà longtemps qu'ils identifient que le traité FNI est un problème de leur point de vue. Donc une fois qu'ils seront débarrassés de ces contraintes-là, ils considèrent qu'ils pourront plus facilement déployer des missiles de portée intermédiaire auprès de pays hôtes qui seraient établis en Asie orientale.
Est-ce à dire que cet accord entre les États-Unis et la Russie profite à la Chine?
La Chine n'était pas contrainte. Donc elle, on va dire, a profité indirectement de l'existence du traité FNI dans la mesure où les Américains étaient plus contraints dans ce segment de capacité, on va dire.
On a entendu l'Union européenne exprimer son inquiétude sur ce retrait américain de l'accord. De quoi a-t-elle peur?
Le traité, tel qu'il a été conçu à la base, il visait à éviter une guerre nucléaire en Europe. Donc c'est un traité qui était paradoxal au sens où il était bilatéral, mais il avait comme principal objet la sécurité de l'Europe. Donc c'est pas surprenant que les Européens soient préoccupés par ce type de décision de l'administration Trump.
En cas de retrait effectif des États-Unis, quelles pourraient être les conséquences?
Du côté américain, ce sera que les États-Unis pourront librement développer et tester surtout des capacités qui étaient jusqu'alors interdites. Pendant ce temps-là, les conséquences immédiates, ça va être que la Russie va être libre de déployer, de produire librement des missiles en plus grand nombre en Europe.
C'était Corentin Brustlin, directeur des études de sécurité à l'Institut français des relations internationales.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Bernard Blanc au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Joselle Morissin, présentation Abdourahman Diar. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Le monde aujourd'hui.
diffusée partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.